بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي من شفاء الإسلام نغمت شو الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité donc de reprendre ces programmes des mardis soirs après donc le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal bien sûr d'accepter les efforts qu'on a fait, qu'Allah nous a donné le tawfiq de faire durant ce mois. Et on le rappelle et on ne rappellera jamais assez que durant ce mois de Shawwal également, il y a une action extrêmement importante, un autre cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à chaque musulman, chaque musulmane, c'est la possibilité d'obtenir de puiser encore une fois dans le trésor illimité d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des jeûnes de 6 jours du mois de Shawwal. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahri. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui ensuite jeûne 6 jours du mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense de l'année passée en état de jeûne. Et ça, c'est vraiment un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Le jour où yawma la yanfa'u malun wala banun, le jour où personne ne trouvera de support ou d'aide à travers ses enfants ou à travers ses biens, la seule chose qui sera profitable pour l'homme le jour de Qiyama, ce sera ses a'mal, ses actions. Et les versets du Coran décrivent qu'un homme ira voir son épouse, un père ira voir son fils, l'enfant ira voir ses parents en espérant qu'ils lui feront grâce de quelques bonnes actions afin que leur balance pèse plus lourd pour qu'ils aient accès au paradis. Parce que s'il peut parfois manquer quelques hasanat, parfois il suffit de quelques bonnes actions manquantes pour que la balance n'atteint pas le bon, ne pèse pas du bon côté et que la personne se voit privée d'accès au paradis. Ça peut se jouer sur des, entre guillemets, des détails, des petites actions. Et en ce jour, l'être humain, il serait prêt à donner tout ce qu'il a pu gagner, amasser dans ce dunya pour avoir quelques hasanat afin de passer ces étapes du mizan, l'étape de la pesée des actions. Maintenant, imaginez que si quelqu'un a jeûné, il a pu, inshallah, tirer un peu de temps, 2 jours par semaine ne serait-ce, durant le mois de Shawwal, et donc cumuler 3 semaines de la sorte où il a jeûné, il a pu totaliser 6 jours du mois de Shawwal, Allah Azza wa Jal lui accordera l'équivalent de l'année passée en saum, en état de jeûne. Et ça, c'est une réalité, ça, qu'Allah Azza wa Jal le promet par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas, na'oudhu billah, des promesses vaines ou alors des paroles, des vertus, non, là, wallah, ce sont des réalités. Quand Allah Azza wa Jal, n'oublions pas qu'il est Al-Karim, Allah est le généreux. Allah aime donner. Allah Azza wa Jal attend que l'être humain fasse un effort. Et les hadiths Qudsi très connus qui dit que lorsqu'une personne, parfois se rapproche d'un pas vers Allah, Allah fait 2 pas vers lui. Une personne se rapproche d'Allah d'un empan, Allah s'approche de lui d'une coudée. Une personne vient vers Allah en marchant, Allah ta'ala vient vers lui harwalatan, Allah ta'ala vient vers lui harwala, en courant, entre guillemets. Ça veut dire qu'une personne fait un petit peu d'effort et Allah Azza wa Jal peut lui ouvrir les portes de l'acceptation, les portes du Qaboul. Donc ces 6 Shawwal, mes chers frères, on doit absolument les faire. On ne doit les manquer sous aucun prétexte. Autrement, subhanallah, on risque de le regretter, pas demain, pas après-demain, pas au moment de mourir, le jour des comptes. Même si on était quelqu'un de pieux, alhamdulillah, on faisait beaucoup de bonnes actions, mais lorsqu'on verra des gens qui auront des montagnes de hasanat, leur vie, si quelqu'un tous les ans il fait son 6 Shawwal, c'est comme si toute l'année, toute sa vie, pardon, il jeûne. Si quelqu'un depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne manque pas les 6 Shawwal, c'est depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces années-là sont considérées comme des années de jeûne, des années de somme, de rosa. Et le jour des comptes, la personne verra l'importance de ces quelques sacrifices. Donc Allah donne tawfiq de le faire. Et puis après le mois de Ramadan, on a enchaîné avec, alhamdoulilah, l'événement que certains ont pu suivre en direct ou alors se tenir informés, ce fameux Moussa Abaqa, ce fameux concours Hajj, alhamdoulilah, qu'on a, qu'on a fait bi'idhnillah pour la deuxième année de suite à la réunion, et alhamdulillah on a eu encore 3 gagnants de Saint-Denis, et on est très content que ce sont des Dionysiens alhamdulillah hein, qui ont remporté les 3 Hajj inshallah, malgré hein, qu'il y ait 10 gagnants sur 1200 personnes, on demande à Allah Azza wa Jal de récompenser chaque participant hein, qui a fait des efforts, qui a ouvert un kitab, qui a été voir un alim, poser des questions, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé d'avancer, de progresser dans sa science religieuse. C'est là la bonne action. C'est déjà là la récompense, même si le nom n'est pas tiré au sort, c'est là la récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde, et c'est ça que nous devons rechercher. Et ce Moussabaqa, cette compétition, ce jeu, hein, ça doit être un entraînement, et ça doit surtout nous donner goût à l'apprentissage de la science religieuse. Ça doit surtout nous faire prendre conscience qu'on a encore beaucoup à apprendre. Ça doit nous faire prendre conscience qu'on voit des questions auxquelles on n'a pas de réponse. On se dit que comment est-ce que je peux ne pas connaître ça? On va essayer de rechercher. Quand on ouvre un livre, on trouve pas forcément la bonne réponse. On tombe sur un autre chapitre, sur d'autres textes, d'autres hadiths, d'autres versets. On lit, et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est rempli de nour, rempli de lumière, la science religieuse. Donc, l'objectif final, l'objectif de ce concours, c'est faire en sorte que le musulman reste attaché à la science religieuse et qu'il garde ses habitudes de revenir vers les savants, de revenir vers les kitabs, vers les livres. Alors, le thème qu'on avait commencé depuis quelque temps, c'était la situation des gens pieux le jour des comptes. Et quand on parle des gens pieux, bien sûr, ceux qui avaient la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de leur cœur, les gens qui auront la situation la plus enviable le jour des comptes, ce seront ces 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour des comptes. Sujet qu'on avait commencé depuis pas mal de temps, mais alhamdulillah, c'est un sujet tellement riche, il y a tellement de choses à dire, il y a des livres qui ont été écrits spécialement sur ce hadith. Et la catégorie de personnes hein, qu'on était en train de voir avant le mois de Ramadan, c'était Ashab, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et on a pris soin de rappeler que la jeunesse, c'est depuis qu'on est baligh jusqu'à, on va dire, à peu près 40 ans, grand maximum. Et ce moment-là, c'est le moment où Shaitan a le plus d'emprise sur la personne, parce que c'est le moment où l'être humain a le plus de pulsions, a le plus de passion, a le plus d'envie de faire des choses, et donc il profite le plus de son dunya. C'est le moment où on profite le mieux, entre guillemets, des plaisirs de ce monde. Et si, dans ce moment-là, le musulman sait se retenir, se contenir, il sait contrôler son nafs, ses shahawat, ses pulsions, et il obéit à Allah Azza wa Jal, il se soumet complètement à Allah, comme doit le faire un muslim. On le répétera jamais assez, le muslim, c'est celui qui est soumis à Allah. Al-istislamu lillah, celui qui obéit à Allah, qui fait les actions qu'Allah lui a demandées, qui s'éloigne des péchés qu'Allah a décrétés haram, qui fait en sorte qu'avant de prendre une décision, il analyse quel est l'ordre d'Allah, ensuite il va regarder qu'est-ce que lui il a envie de faire. C'est pas que j'ai envie de faire ça, et je vais essayer de trouver avec un moulissab ou un moufti, c'est pas ici, c'est ailleurs, une fatwa qui m'autorise à le faire. C'est pas comme ça que ça marche. Celui qui a à la fois la crainte d'Allah dans son cœur, il a envie de faire quelque chose, il a envie d'investir, il a envie d'acheter, il a envie de consommer, il a envie de n'importe quel plaisir ou nécessité de ce dunya, la première chose, il doit analyser quel est l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'y a aucune contrainte, alhamdulillah, les choses sont licites. S'il y a un empêchement, il y a karahiyah, il y a quelque chose de mauvais, la personne se retient, il s'abstient pour Allah azza wa jal. Et l'exemple hein, le plus probant qu'on avait vu la dernière fois, c'était l'histoire, parce que là on est en train de brasser un peu l'histoire de ces jeunes sahaba, tabi'in, tabi'in, des grands savants de l'islam, pas leur vie en entier, quelques moments de leur jeunesse, pour montrer qu'il est possible qu'un jeune reste dans l'adoration d'Allah, il est possible qu'un jeune s'éloigne totalement des péchés pour Allah Azza wa Jal. Et l'exemple le plus probant, le plus symbolique, c'est l'histoire de Moussa bin Umair radiallahu anhu, qu'on avait vu un jeune homme qui avait tout. Il était beau, il était riche, hein, quand il se parfumait, hein, les gens savaient qu'il était passé dans cette rue parce que le parfum restait. Il y a des fois qu'on met de très bons parfums, du bon oud, du bon ambar, quand on passe dans un escalier, il y a des gens qui disent « Oh là, passe par là !» On dit « Oui !» Elle dit « Parce que le deuil reste. » Mais le deuil reste combien de temps? 10 minutes, 15 minutes. Mais les parfums que lui, il mettait, c'était « Subhanallah, hors du prix !» Bref, c'était un jeune qui avait tout, tout pour plaire et tout en termes de facilité, faculté financière, issu donc d'une famille très aisée. Lorsqu'il a vu la vérité dans la prêche du prophète alayhi salatu wa salam, ses parents n'ont pas accepté qu'il lise la shahada. Et donc, il a été chassé. Et le dilemme était le suivant. Soit il reste dans ses bienfaits, dans toute sa richesse, avec ses parents, mais tout en sachant qu'il est dans le faux. Ou alors, il va vers la vérité et il sait qu'il sera chassé et qu'il n'aura plus rien. Il a fait le bon choix. Un jeune, à cet âge, qui normalement doit, comme on dit, croquer la vie, comme on le sait, ce jeune s'abstient, il fait passer l'ordre d'Allah. Alors qu'il vient d'entrer dans la religion, il vient de découvrir le dîn, mais il fait passer l'ordre d'Allah. Il a vu la lumière qu'il y a dans la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et il sait qu'avec ça, il va être éprouvé, et il a été durement éprouvé. À un tel point qu'on avait vu en conclusion que lorsqu'il est décédé, il est mort dans le chemin d'Allah lors de la campagne de Uhud ou Badr. Lors de la campagne de Uhud, Mus'ab ibn Umair, l'homme qui avait les plus beaux vêtements, le jeune qui avait les plus beaux vêtements de Madina, il n'avait pas de quoi se couvrir. On n'avait pas de quoi le couvrir correctement, un kafan comme on dit, pour l'enterrer. Ça c'était une personne qui a tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'était rappelé également l'histoire d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui une fois il était attablé, on a servi son repas et tout d'un coup il a eu un moment de réflexion. Il s'est dit que subhanallah, je suis là en train de manger alors que parmi mes compagnons il y en a ceux qui ont donné leur vie, leur bien pour Allah, ils sont déjà en train d'obtenir les récompenses auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont déjà donné leur vie pour Allah alors que moi je suis là en train de manger. Pourtant les sahaba, c'était pas des gens qui festoyaient, juste ce qui était nécessaire pour se nourrir. Et il a délaissé la nourriture, attristé que son ami lui est déjà retourné auprès d'Allah, il a déjà donné sa vie pour Allah Azza wa Jal, alors que moi je suis toujours là en train de profiter des plaisirs de ce dunya. On voit la mentalité des sahaba. Et le sacrifice que Mus'ab radiallahu anhu a fait, c'était pendant sa jeunesse, parce qu'il est mort très jeune. Et dans sa jeunesse également, lorsque le prophète Ali salat wa salam l'avait envoyé à Al-Madinah al-Nabawiyya comme émissaire pour propager l'islam. Connais l'histoire, on ne va pas le rappeler, lors des différents hajj, le prophète sallam rencontrait les gens de Madina, à Mina. D'accord? Une année, il a rencontré quelques-uns. L'année d'ensuite, les différents bay'a al-Aqaba. Jusqu'à ce qu'il a vu qu'il y a une réelle motivation chez l'Ahl Madina et que la foi a commencé à pénétrer des maisons à Médine. Et là, ces personnes-là ont demandé au prophète sallam d'envoyer quelqu'un qui va les enseigner la religion. Et le prophète sallam envoie donc ce jeune homme, Mus'ab ibn Umair, un homme éduqué, un homme instruit qui a la science religieuse et qui a une foi inébranlable. Et donc cet homme-là est parti dans la ville sainte et bi-idhnillah, c'est grâce à son travail, grâce à son intelligence, grâce à son approche, grâce à sa sagesse, sa hikmah, qu'il a pu convaincre les gens. La guider, c'est dans les mains d'Allah, il n'y a rien à dire. Maintenant, la prêche doit être faite de manière correcte. Si une personne, il va, il bouscule les gens, il insulte, il dit les gens, vous êtes kafir, vous êtes fasiq, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la perdition, personne ne va vous suivre. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Si le prophète alayhi salatu wa salam avait été dur, avait un discours dur avec le sahaba, personne ne l'aurait suivi. Le da'i, celui qui invite vers Allah, il doit le faire avec Udu ila sabili rabbika bil hikma. La première chose, c'est la sagesse. Et Mus'ab ibn Umair était un homme sage, un jeune homme sage et en même temps rempli de courage. Et très souvent, les jeunes, ils sont hésitants en général. Ils ont peur, ils ne veulent pas trop s'avancer, se mouiller. Mais Mus'ab ibn Umair, une fois, il est avec des gens en train de faire la da'wah, Allahu Akbar, comme on est en train de le faire là, en train d'expliquer aux gens la religion d'Allah Azza wa Jal, et vient deux personnes, deux chefs de tribu de Médine, Usayd ibn Hudayr et Sa'd ibn Abi Mu'adh radiallahu anhu, ainsi que Sa'd ibn Ubada. Ce sont des chefs, des zu'ama. Comme à Makkah, il y avait des chefs de Quraysh, Madina aussi, il y a des tribus, ce sont les chefs. Et Moussa n'a pas eu peur, au contraire, il a inviter ces gens vers le Coran. Il a lu le Coran et ces gens ont écouté et ces gens étaient touchés par sa prêche, par sa lecture, par le message qui se dégageait du Coran. Donc, c'est un jeune homme qui avait également le courage. C'était pas un jeune homme qui était timide ou renfermé sur lui-même. Il avait la pudeur, mais pour le dîn d'Allah, il était prêt à faire le travail, à aller vers les gens avec beaucoup de sagesse et de tact. Et donc, là, grâce à son sacrifice, la totalité de la ville de Madina Munawwara a embrassé l'islam. Et donc, il a préparé le terrain pour la hijra, pour l'égir. S'il n'y avait pas cet homme, ce jeune homme à Madina, aucun sahaba n'aurait pu y aller. Ce serait comme Taïf. Quelle est la différence entre Taïf et Madina? On va dire que Madina a été choisie par Allah. Oui, clair. Maintenant, si on regarde en termes de asbab, Taïf, le prophète alayhi salatu wasalam, y est allé seul. Pour la première fois, il y va, il prêche. Et les gens n'étaient pas préparés. Et les gens, il n'y avait pas de bonté, de rahma de leur cœur. Allah ne les a pas acceptés, ça c'est clair. À Madina Munawwara, déjà le tempérament de ces gens est totalement différent. Et Alhamdulillah, le Prophète avait commencé la prêche des années avant, lors du Hajj. Et le Prophète a envoyé un muallim, envoyé un enseignant pour préparer les gens, un da'i, un prêcheur. Et il a préparé le terrain, ce qui fait que peu à peu les sahaba ont pu venir jusqu'à ce que le Prophète vienne. Et cette ville devient la base des musulmans. Et c'est de Madina que la guidée va se propager à Mecca. C'est de Madina que la lumière va venir pour que les gens de Mecca viennent sur le droit chemin. Et de là, ils ont pu récupérer Mecca et récupérer par la suite toutes les tribus qu'il y a autour, la péninsule arabe. Et c'est Madina qui est restée la capitale de l'islam pendant très longtemps. Et tout ça, bi'idhnillah, on ne le rappellera jamais assez à la base, c'était l'effort, le travail d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, qui son sacrifice a commencé depuis Mecca, lorsqu'il a fait le choix. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est un message que les jeunes doivent retenir à chaque moment de notre vie. On n'est pas entraîné dans la perdition du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. Pas qu'on a une bonne éducation. Je vais en France, faire des études, par exemple. L'exemple qu'on cite tout le temps, bien sûr, c'est pas que le lendemain que je me réveille, je deviens shaitan. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a toujours des choix. On est toujours confronté à un choix. Dans les relations entre garçons et filles. Si à La Réunion, j'ai toujours été réglo. Je ne fais pas la bise, je ne sors pas avec les filles. Et je ne vais pas en boîte, je ne mange pas haram, je fais la salat à la masjid, je ne me rase pas la barbe, je m'habille de manière pudique. Ça c'est à la base un peu de notre tarbiyah. C'est l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est l'éducation qu'on donne aux élèves aussi à la madrasa. En général, ça tourne autour de ça. Maintenant, ce jeune homme qui a grandi, ou cette jeune fille qui a grandi dans cette éducation, avec ses bases, quand il va en métropole, ou en Angleterre, ou en Italie, ou en Russie, peu importe, à l'étranger, c'est-à-dire un endroit où il n'y a plus le cadre familial. Il n'y a plus les parents, il n'y a plus les professeurs, les ulama qui surveillent. D'accord? C'est pas du jour au lendemain. C'est pas quand l'avion atterrit qu'il se transforme en shaitan. Ça se passe pas comme ça. Chaque acquis qu'il a eu pendant 15, 16, 17, 18 ans, il sera éprouvé sur ses acquis. Il sera éprouvé dans les relations garçon-fille. Ce qu'il n'a jamais fait ne viendra pas automatiquement. C'est à un moment donné, quelqu'un lui fera une proposition. Quelqu'un voudra sortir avec lui ou le demander telle chose. Ça, c'est à ce moment-là qu'il devra faire le bon choix. Soit il obéit son nafs et il va vers le haram, soit il se rappelle de ce qu'il a appris, il a la crainte d'Allah imprégnée de son cœur et il ne va pas vers le haram. Pareil pour la consommation d'alcool, pareil pour la consommation de nourriture non licite, pareil pour le fait de ne plus fréquenter la masjid, pareil pour le fait de se raser la barbe, pareil, etc., etc., etc. À chaque moment, il y a un choix à faire. Et ce choix-là est déterminant pour notre avenir. Ça peut être une fatah, ça peut être une ouverture. Allah peut prendre une décision pour nous à un moment clé. À un moment clé où Allah nous éprouve, il y a un grand irtibar, une grande épreuve. À ce moment-là, qu'est-ce que ce serviteur va prendre comme chemin? Et en fonction du chemin qu'il va prendre, il peut s'ouvrir à des portes extraordinaires où il peut malheureusement s'égarer complètement. Et regardez le choix qu'il a fait Moussa bin Umair, au moment où il devait choisir entre les biens de ce monde et la foi à Mecca, il a fait le bon choix et son destin, Allah a ouvert son destin. Allah a envoyé des ouvertures, des futuhad pour lui, il a avancé, progressé dans la foi, progressé dans le iman, il a eu l'amour d'Allah dans son cœur, l'amour pour le prophète de son cœur, il a été aimé par Allah, radiallahu anhu wa radu anhu. Il est mort dans le chemin d'Allah, il était apprécié, aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la base de l'islam, de la conversion d'une ville. tout entière. Et chaque personne qui a lu Shahada avec lui, ils vont pratiquer, il aura une part de récompense. Il aura l'équivalent des récompenses de chaque personne qui a lu Shahada avec lui, et les gens qui vont se convertir avec ceux qui ont lu Shahada avec lui, etc., etc. La prêche, la da'wah qu'il a fait, tout ça, c'est des ouvertures, c'est des cadeaux qu'Allah lui a accordés par rapport à ce choix, à ce moment crucial de sa vie. Une croisée de chemin, on choisit soit la facilité, le plaisir, les jouissances de ce dunya, soit l'obéissance d'Allah. Il a fait le bon choix. Allah lui a ouvert les portes jusqu'à lui accorder la meilleure des morts, mourir dans le chemin d'Allah en tant que porte-drapeau de l'étendard de l'islam. Donc c'est un message que nos jeunes doivent bien comprendre. Moussa bin Umayr doit être un exemple pour nous. Quand nous avons à faire des choix, pensons que ces choix-là peuvent être déterminants jusqu'à la fin de mes jours. Pas un an, deux ans. Peut-être qu'Allah peut m'ouvrir les portes du Kaboul, d'acceptation dans tout ce que je fais jusqu'à ma mort. Devenir un homme pieux jusqu'à rencontrer Allah. Et tout peut commencer dans ces moments extrêmement importants. Je pense qu'on va pas trop tarder, 20 minutes. Inch'Allah, il y a baraka de le temps. Encore peut-être 10 minutes, l'histoire d'un deuxième jeune homme. Je ne sais pas si on avait commencé à raconter l'histoire de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. C'était un jeune homme qui pouvait lire et écrire, ce qui était assez rare à cette époque. Et Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, était jeune au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est décédé et que Abu Bakr al-Siddiq est devenu calife, Abu Bakr al-Siddiq a fait un mashwara, il s'est concerté avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu après un événement tragique, la bataille de Ahlul Yamama. Après cette bataille, il y a eu beaucoup de morts parmi les musulmans et principalement des qurra, des gens qui lisaient le Coran, qui le connaissaient par cœur. Il n'y en avait pas beaucoup. Des huffaz du Coran sont morts massivement lors de la bataille de Yamama. Et donc Omar ibn al-Khattab dit à Abu Bakr, « Oh Abu Bakr, ara an ta'mura bi jam'i al-Qur'an. Oh Abu Bakr, je pense qu'il serait judicieux maintenant de réunir le Coran. » Parce que le Coran était révélé, vous savez, par fraction. Et quand le Coran était révélé, il y avait des scribes, des sahaba qui écrivaient sur des parchemins, sur des os de chameaux, des omoplates, etc., etc., ou des feuilles de palmier, et chaque sourah, juz, chaque hizb était conservé par des sahaba connus. Vous savez tous que telle partie du Coran était avec tel sahaba, telle partie. Donc le Coran était complet, mais il était avec différentes personnes qui le gardaient comme un trésor. Et Omar ibn al-Khattab, il s'est inquiété, il dit qu'il y a beaucoup de hafiz qui sont décédés maintenant. On a peur, parce que qui sait qui étaient les vrais gardiens du Coran? Pas uniquement les gens qui gardaient chez eux, il y avait ceux qui gardaient chez eux, mais avant tout ceux qui gardaient tout dans leur cœur. Tout était réuni dans leur cœur, les gens qui connaissaient depuis Alif Lamim jusqu'à Wannas, qui ont mémorisé toute la révélation. Mais là, Omar ibn al-Khattab dit qu'il serait temps de réunir le support du Coran, afin qu'on puisse le recopier et qu'il y soit vraiment condensé, plutôt que d'être avec certaines familles particulières. Et Abu Bakr, regardez la réaction immédiate d'Abu Bakr, ça prouve quelle était la tarbiya qu'ils avaient eue toute leur vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » dit « Oh Omar, pourquoi ferions-nous quelque chose que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même ne l'a pas fait ?» Abu Bakr craint qu'il prenne un chemin que le prophète n'avait pas pris. Mais Omar l'a expliqué, dit « هذا والله خير » dit « selon moi c'est une bonne chose ». Puis ils se sont concertés, il y a eu leurs arguments, ils ont compris que c'est une bonne chose, ce n'est pas une innovation. Parce que ce n'est pas un ibada en lui-même, c'est quelque chose qui est profitable pour la Ummah, et ce sont les révélations, les versets qu'Allah Azzawajal a révélés, ce n'est pas un acte d'adoration. Mais là où ce qui nous intéresse, c'est la réaction première d'Abu Bakr al-Siddiq. Quand il y a une action qui n'a pas été accomplie avant, il se pose tout de suite la question. Il y en a deux qui dorment là, si on les réveille, ou alors, barakallah, il y en a un qui est parti très loin là, en ruku, en sijda même. La première... Il aura que s'il n'est pas mort. Mal au dos. Il aura mal au dos. Justement, comme ça, il aura mal au dos. Donc, où est-ce qu'on était? Subhanallah. La première réaction d'Abu Bakr Siddiq, c'est immédiatement se dire, attention, cette action-là, le prophète ne l'a pas fait. Est-ce qu'on est dans le droit chemin si on le fait? Ça, ça doit être la réaction du musulman. Quand on voit une action, on entend parler d'une action qu'on ne connaît pas, on sait qu'il n'y a pas de texte dessus, immédiatement se poser la question, est-ce qu'on est dans le droit chemin ou non? Et regardez, lorsqu'ils vont voir, pourquoi on parle de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, parce qu'ils ont été voir Zayd. Lorsqu'Abu Bakr et Omar étaient d'accord, le calife Abu Bakr et son bras droit, on pourrait dire Omar ibn al-Khattab, lorsqu'ils étaient d'accord, ils sont partis voir Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, connaissant ses qualités, ils ont été voir, dit oh Zayd, hein, nous te confions cette tâche, tu vas voir les différentes familles et tu vas réunir le Coran. Et regardez la réaction de Zayd immédiatement. Il dit كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. La même question qu'Abu Bakr al-Siddiq. Allez-vous faire quelque chose? Comment êtes-vous prêt à faire quelque chose que le prophète lui-même n'a pas fait? Et là, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr al-Siddiq n'expliquent que le contexte est ainsi. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est la révélation d'Allah. C'est juste un support. C'est pas un acte d'adoration lui-même. Mais les ulama disent, voyez, quelle était la tarbiyah de tous les sahaba. Toujours faire attention quand on fait une action, que l'action n'est pas une innovation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si un musulman fait une action que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'avait pas fait, l'action n'est pas acceptée par Allah. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui apporte quelque chose à la religion qui n'a pas de source, l'action est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il dit que lorsqu'ils m'ont demandé de réunir le Coran, il dit que لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. S'il m'avait demandé de déplacer une montagne parmi les montagnes de Médina, ça aurait été plus facile pour moi que de me dire d'aller réunir le Coran. Parce que là, il sait que c'est une responsabilité terrible qui pose sur son dos. Parce que par rapport au travail qu'il va faire, tout le monde va prendre ce nusra, cet exemplaire du Coran, génération en génération. Donc il doit faire son travail correctement avec le ilm qu'il a, sachant qu'il a hafiz le Coran. Comme on dit, il faut qu'il ait bien yad, il faut qu'il connaît bien les chapitres qui se suivent. Quand est-ce que ça a été révélé, au moins il peut les rassembler et le présenter à Abu Bakr, qui a fait la première partie du travail. Et Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il sera calife, hein, il va accentuer un peu plus le travail. Et on pourra dire que à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, vraiment, ils ont commencé à, on dirait pas éditer, mais à faire plusieurs exemplaires du Coran à partir de la version originale. Et subhanallah, c'est un travail essentiel. Si aujourd'hui nous avons le Coran, c'est la protection d'Allah. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah a décidé de protéger le Coran par des gens qui le mémorisent, mais également par des personnes qui ont fait cet effort à ce moment crucial, qu'ils ont eu la sagesse d'esprit que maintenant il est temps de réunir tous les versets pour faire un seul livret qui sera accessible aux musulmans. Voyez comment Moussab, il a pris une décision importante dans sa vie, et Bidnillah, grâce à lui, il a guidé pour la ville de Médina qui va accueillir l'islam tout entier. Ce jeune Zayd ibn Thabit, il va accepter ce travail. Et Bidnillah, grâce à son effort, son courage, les gens jusqu'à maintenant, s'ils peuvent avoir le Coran en entier, c'est entre autres grâce au travail de réunion, de ramassage de tous les versets qui a été fait par Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Et pour revenir, parce qu'on ne va peut-être plus aborder ce sujet, la réaction de Abu Bakr al-Siddiq, la réaction de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu par rapport à une action de l'ulama, rahimahumullah, ils disent que quand quelqu'un il voit une action dont il ne trouve pas la source ni de le Coran ni dans les hadiths, il ne faut pas qu'il se dise que c'est une bonne chose, on le fait. Parce que beaucoup de gens, ils disent que c'est une bonne innovation, ce n'est que profitable. Là, wallah. Les ulama disent qu'il ne faut pas cautionner une action parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui le font. On va dire que oui, mais il y en a plein de monde qui fait ça, donc c'est le vrai. Excusez-moi, mais regardez, on va parler d'une secte, les Bereloui. Tout le monde a entendu parler. Hein, c'est des gens, on connaît dans certains pays, il y a, au Pakistan, dans certaines régions de l'Inde, il y a, hein, c'est des gens qui, lorsqu'ils font le dhikr, ils ont la conscience, ils disent que le prophète vient, il est présent, il est réellement présent. Ben, il y a des millions de gens comme ça, qui ont cette aqida, cette croyance. Est-ce que c'est parce qu'il y a des millions de gens qui pensent comme ça, ça veut dire qu'ils sont de le vrai? Si quelqu'un habite dans un village, dans une ville, où 98% des gens, ils ont cette croyance, d'accord? Est-ce que ça veut dire que tout le monde autour de moi pense pareil? Donc c'est vrai? Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit par rapport au texte. Est-ce qu'il y a ça dans la parole d'Allah, dans le Coran, ou est-ce qu'il y a dans les hadiths, dans les paroles rapportées par An-Nabi alayhi salatu wa salam?
On ne doit pas non plus questionner une action parce qu'on voit des gens plus pieux que nous qui le font. On va dire que lui, mais tel grand monde, il fait, donc il est bon. Attention, analysons ce que notre prophète Ali, salatu wassalam, avait dit aux sahaba. Mu'ajiza, un miracle ça. Il avait parlé d'événements qui auront lieu après son décès. Il a dit qu'après moi viendra des gens qui, ils auront des erreurs de l'aqid, on appelle ça les khawarij. Le prophète a dit que, attention à ces personnes-là, leurs actes d'adoration dépassent les vôtres. Il avait dit aux sahaba que si on comparait leur ibada à eux, à vos ibada, leur ibada c'est supérieur à le vôtre. Alors que le prophète est en train de s'adresser à Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Effectivement, à l'époque d'Hazrat Ali, radiallahu anhu, quand ils ont fait un de ces khawarij, les gens qui voulaient, des révolutionnaires, qui voulaient retirer le pouvoir, etc., au calife, et il dit qu'on a été les voir, ils restaient dans des grottes, et lorsque j'ai plus le nom de celui qui a été envoyé par Hazrat Ali pour parlementer, il dit que quand je suis entré, j'ai vu des gens, on entendait comme des bourdonnements. Des gens qui disaient le Coran, d'autres qui faisaient la salat en permanence. Il dit que j'ai jamais vu des gens faire autant de ibadah. J'ai jamais vu des gens aussi pieux d'apparence. Mais le Prophète m'a dit que yamruquna min ad-dini, comme la flèche, ils s'éloignent de la religion, comme la flèche quitte l'arc. Ils s'éloignent aussi vite de la religion, comme la flèche quitte l'arc. Malgré les signes de prosternation qu'il y avait sur le front, le prophète a décrit tout ça. Le signe de prosternation, le piété, et les sahaba l'ont constaté de leurs propres yeux, que eux-mêmes, ils ne font pas ibadah comme ces gens-là, mais par rapport à une fausseté de leur croyance, ils étaient dans le mauvais chemin. Donc, c'est pas parce qu'on voit des gens plus pieux, entre guillemets, faire une action, qu'on se dit, de toute façon, s'il le fait, tout le monde peut le faire, on doit faire extrêmement attention. De même, il y a des gens qui disent que oui, mais regarde tel monde là, il dit pas qu'il fait des actions qui sont pas masnoun. Regarde comment il pleure quand il fait doigt. Il y a des gens qui insultent Abu Bakr et Omar, qui pleurent en insultant Abu Bakr et Omar. Ils pleurent, ils sont barbus, ils pleurent jusqu'à peut-être s'évanouir. Est-ce que le fait de pleurer, ça veut dire qu'ils sont dans le droit chemin? Là, wallah. Donc on doit faire bien attention. C'est pour ça que, subhanallah, lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien que je vous ai laissé ces deux choses, restez accrochés, vous ne serez jamais égarés. C'est-à-dire, ne regardez pas autour de vous, ne regardez pas celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça, celui-là, il a dit ça, celui-là, il a telle année, tant d'expérience dans tel domaine. Regardez les textes. Celui qui regardera le texte, la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra dire à Allah que j'ai trouvé ça dans ton livre ou j'ai trouvé ça dans les paroles du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un ne pourra pas dire qu'il y a des gens qui m'ont dit. Ou surtout pas dire que depuis tout le temps on fait. Parce qu'Allah Ta'ala met en garde contre les personnes qui, depuis les premiers prophètes, lorsqu'ils étaient dans le mauvais chemin, ils disaient Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim. On a trouvé des gens. Nos ancêtres faisaient ça et nous on ne fait que suivre. Donc ne pas se dire non plus que ben, depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis 70 ans nous fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait 50 ans, 100 ans, 200 ans, que la chose devrait toujours se baser sur les paroles d'Allah et les paroles du prophète alayhi salam. Celui qui fait ça, il trouvera une lumière dans son cœur. Il aura le cœur apaisé et il sera sûr d'être dans le droit chemin. Donc on doit faire très attention. Vous voyez la bonne réaction d'Abu Bakr, de Zayd ibn Thabit. Il y a d'autres récits encore. Omar ibn Khattab, il reçoit... Il voit un sahaba, je n'ai pas le nom de sahaba, un sahaba qui était venu le voir. Hein, il avait cogné une fois, Omar n'a pas répondu deux fois, trois fois il est parti. Et puis Omar l'a retrouvé par la suite, il dit pourquoi t'as pas attendu? Il a dit que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui va voir quelqu'un, qui cogne, au bout de trois fois, s'il y a personne qui doit partir, il attrape, il pense au collet. C'est l'habitude de Omar. Il a attrapé par son linge. Il a dit, vous êtes sûr pourquoi ça m'a dit ça? Parce qu'on m'a dit, j'ai jamais entendu. Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent témoigner, attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit réellement? Il a dit, oui, allons vers le marché où il y a les gens. Il a ramené. Il a dit, qui atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Il a dit que oui, on atteste. Il a dit, Omar al-Khattab a accepté. C'était là, bon, on ne peut pas dire qu'on va faire ça avec les gens. Mais bref, c'était la réaction des sahaba. Quand on entend quelque chose, est-ce que c'est sûr? Est-ce que le prophète l'a dit de sa bouche? Au moins devant Allah, on sait que Allahu Akbar, c'est An-Nabi qui l'a dit, on est tranquille. Et quand il y a une action, toujours regarder par rapport au texte. Mes chers frères, qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Pour qu'une action soit acceptée par Allah, il faut la foi, iman, il faut la sincérité. Si on n'a pas iman, l'action ne compte pas. Si on n'a pas la sincérité, l'action n'est pas acceptée par Allah, il faut que l'action soit conforme à l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah azza wa jal donne à nos jeunes qui sont présents, moi aussi je suis encore un peu jeune, nous donne les qualités de ces sahaba, de Mus'ab bin Umair et de Usama bin Zayd radiallahu anhu, le courage, la force, la détermination, la sagesse, la bonté, l'ouverture d'esprit, la grandeur de cœur pour aller vers les gens, pour les inviter vers le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah protège nos enfants, tous nos jeunes qui sont partis en France, dans les différents pays, qu'Allah protège leur iman et que les acquis qu'ils ont eus ici, qu'ils ne les perdent pas, qu'ils deviennent un jour eux-mêmes de bons parents, qu'Allah leur accorde bon mari ou leur bonne épouse, qu'ils fondent un foyer basé autour de la foi et qu'ils deviennent eux-mêmes des enseignants, des mudarris, qu'ils enseignent l'iman à leurs enfants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.